Bonjour, vous écoutez Transistor et vous êtes avec les élèves de 4e du lycée Le Klezmer à Lesneva. Cette année, avec la radio, nous avons travaillé sur les questions LGBTQIA+.
Et pour parler du sujet, nous recevons aujourd'hui Julie Tanneau, qui est la présidente de l'association Queer Unis de Bretagne. Bonjour Julie.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire LGBTQI+ ?
Alors, L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour transgenre, I pour intersexe. Et après, la liste est très longue puisque il y a autant d'expressions de genre, d'attirance sexuelle et romantique. On peut dire qu'il y a deux personnes. C'est pour ça qu'il y a autant de lettres, justement. C'est pour que les personnes arrivent à se sentir à l'aise dans ce qu'ils ressentent.
Qu'est-ce que ça veut dire une personne intersexe ?
Alors, une personne intersexe, c'est une personne qui a des caractéristiques de genre qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre. Ça fait très brut comme ça. Généralement, on se pose beaucoup de questions. C'est des personnes qui ont des caractéristiques de genre, donc masculin ou féminin, mais qui ont aussi les caractéristiques de l'autre genre. C'est des personnes qui n'ont pas 100% des caractéristiques masculins et ou 100% des caractéristiques féminins. Un exemple, une femme qui aurait une pilosité excessive au niveau du visage, ça peut être aussi un homme qui a un taux hormonal plutôt féminin. Il y a énormément de situations d'intersexuation. C'est il y a pas de définition, enfin de caractéristiques précises, puisque ça peut être une variation au niveau hormonal, ça peut être une variation au niveau physique. Il y a quasiment autant de cas que de personnes concernées. C'est vraiment spécifique, c'est très complexe aussi. Ça se détecte pas forcément tout de suite. Beaucoup de personnes ne le savent même pas. Donc c'est assez compliqué à déceler pour certaines personnes. Et il y a très peu d'études là-dessus. C'est vraiment très très peu. Je prends l'exemple de la France qui a 40 ans de retard en hormonothérapie, par exemple, par rapport au Canada. Là-bas, c'est détecté beaucoup plus facilement parce qu'il y a des publications dans des journaux officiels au niveau médical qui expliquent et qui détaillent des spécificités sur l'intersexuation, par exemple, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à détecter, à déceler au niveau des circuits médicaux.
Est-ce que vous êtes queer ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, queer. Queer, ça veut dire différent. Queer était une insulte avant. Il y a une réappropriation de ce terme-là. C'est un terme anglais. Est-ce qu'on se considère queer quand on est LGBTI, pas forcément. Et ce qui compte, c'est ce que l'on ressent. C'est pas une étiquette qu'on nous met, c'est une appropriation. Puisqu'au départ, c'était une insulte qui a été, on s'est réapproprié ce terme-là. Donc, à chacun de savoir si il ou elle se considère queer. Est-ce que je me considère queer? Étant militante, oui. Alors, pour développer, queer, c'est aujourd'hui, c'est très politique. Quand on est militante LGBTI, il est difficile de ne pas se dire queer à partir du moment où on a des actions militantes, où on fait de l'information, de la défense des droits, où l'on a des actions auprès du grand public, de l'information, la transmission d'informations. Voilà.
Comment vous avez appris que vous étiez lesbienne ?
Très tôt. Je suis pas que lesbienne, je suis lesbienne, transgenre et intersexe. J'ai commencé à prendre conscience de ma transidentité, j'avais 5 ans. J'ai du coup commencer à comprendre aussi que tout en commençant à affirmer un genre féminin, j'étais attiré aussi par les femmes. Donc c'est très tôt, j'avais même pas 10 ans. Oui, très très tôt.
Est-ce que ça a été dur d'accepter votre identité ?
Très compliqué. Le coming in, j'ai enfin réussi à le faire. J'avais 35 ans. J'en ai 40. Ça passe. Oui, ça a été très compliqué. Mon identité de genre, j'ai eu énormément de mal parce que il y a 20, 25 ans, la transidentité, c'était encore méconnu. On parlait de transsexualisme. C'était considéré comme une maladie mentale, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, tout ça, toute cette pression sociale, pression sociétale qui fait que on reste dans le placard. C'est un terme qu'on utilise. En fait, on reste dans le placard, on se cache même à nous-mêmes. On en arrive à se dire que non, c'est pas possible, on n'est pas comme ça. Ça, c'est la pression sociale qui le fait. C'est très compliqué à faire d'abord son coming in avant de faire son coming out. Et c'est l'étape, je pense, la plus dure à franchir. Y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à franchir ce cap-là. Et c'est important justement de transmettre que c'est ok d'avoir une identité de genre qui est autre que son genre assigné à la naissance. C'est ok d'avoir une attirance sexuelle et romantique en dehors des standards, ce que la société voudrait nous imposer. C'est ok. On a droit d'être qui on veut. Donc le coming in, c'est déjà s'accepter soi-même, c'est mettre de côté toute la pression sociale et sociétale, comme je disais tout à l'heure, et de réussir à s'accepter, à accepter qui l'on est au plus profond de nous. Et ensuite, le coming out, c'est parler justement à notre entourage et à s'affirmer en tant que personne LGBTI+. C'est complexe aussi, puisque cette pression sociale et sociétale qui s'applique aux autres vont faire qu'ils ne vont pas forcément accepter comme on le voudrait, comme il peut avoir du rejet, il peut avoir aussi le peur du rejet. Et c'est important de se faire accompagner par des associations, par des personnes concernées aussi, justement pour se préparer à faire son coming out. C'est très compliqué. Moi, j'ai pas réussi à le faire oralement à mes parents, par exemple. Je leur ai écrit une lettre. J'ai cru que j'allais couper complètement les ponts avec mes parents. Et en fait, pas du tout. Au bout de 3 ans, au contraire, je dirais que on a une relation qui est encore plus forte qu'avant. Et faut s'entourer quand on veut le faire. Et parfois, il y a des situations qui sont comme heureuses après.
Est-ce que quand vous l'avez annoncé à votre famille, ils l'ont bien pris ?
Oui. Étonnamment, bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à couper les ponts avec mes parents. J'ai donné une lettre à ma mère. Je lui ai dit, tu l'ouvres quand tu rentres à la maison. Et en fait, pour moi, c'était fini. J'allais couper les ponts avec mes parents. Et pas du tout. Pas du tout. Il y a même le lien mère-fille avec ma mère qui s'est renforcé. Aujourd'hui, ça me surprend encore. Et oui, ça se passe très bien.
Est-ce que vous avez fait des opérations ?
Alors, pas du tout. Aucune. Le parcours des personnes trans est propre à chaque personne. Il n'y a aucune obligation d'opération. Il y a quelques années, avant 2016, pour les personnes qui voulaient faire des changements à l'état civil, des changements de genre, donc ça passait par le tribunal, beaucoup de procureurs imposaient. C'était très intrusif de la part de l'administration française. C'était avant 2016, donc il n'y a pas très longtemps encore. Ce qui fait que les personnes qui voulaient faire un changement d'état civil, un changement de genre à l'état civil, avaient cette obligation-là. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas l'obligation de faire de chirurgie. Chaque personne a le parcours médical qu'elle veut avoir. C'est quelque chose qui est important à dire. C'est OK de ne pas faire d'opération. Voilà. Il n'y a aucune obligation.
Est-ce que vous vous êtes déjà fait harceler ?
Harceler en tant que personne LGBTI, non. J'ai la chance de faire 1m80, d'avoir une certaine carrure qui fait qu'on vient pas à m'embêter en général. Par contre, oui, je connais beaucoup de personnes qui ont subi du harcèlement, de la discrimination. J'ai cette chance de ne pas en avoir subi. En tant que personne LGBTI.
Vous êtes la présidente de l'association Queer Unie de Bretagne. Depuis quand êtes-vous la présidente ? Et est-ce que vous êtes contente d'être la présidente ?
Alors, j'ai repris la présidence de CUP Queer Unie de Bretagne depuis un an et demi, déjà. Quand j'ai repris l'association, il y avait quelques conflits internes qu'on a réussi à résoudre. Ensuite, on a ouvert l'association à toute la région Bretagne, parce que justement, c'est important de faire le lien, et un lien bien plus large que sur uniquement une ville, un tout petit secteur. J'ai échangé là récemment avec le président du mouvement associatif breton qui justement est en recherche d'un réseau au niveau de la région. Et c'est important de pouvoir se déplacer sur toute la région. Il y a des demandes partout. CUP fait de l'entretien individuel puisqu'on a de la demande un petit peu partout. On a de la demande de sensibilisation, on a de la demande sur des villages associatifs. Donc oui, ça se passe bien, ça se passe même très bien. Depuis le début d'année, on a recruté quasiment 20 bénévoles à nouveau sur le secteur de Quimper où on a une antenne. On va bientôt aussi ouvrir une antenne dans le centre Finistère. On va essayer d'aller là où il y a pas encore d'associations, là où il y a des collectifs qui aimeraient se mettre en association. Donc c'est aller aussi donner un coup de main. Et puis je ne suis pas que présidente de Queer Unie de Bretagne, je suis aussi présidente de la LDH Quimper, qui est une antenne associative, donc de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Je suis aussi co-responsable du groupe de travail LGBTI de la LDH au niveau national. Je suis aussi co-organisatrice de la Marche des Fiertés de Brest. Et ça fait déjà beaucoup.
Quel est le but de l'association Queer Unie de Bretagne ?
Alors, le but de l'association Queer Unie de Bretagne, c'est l'aide, l'entraide à la paire aidance. On le fait par des groupes de parole, par de l'entretien individuel, par de la sensibilisation sur du village associatif. On accompagne, par exemple, sur des problèmes de discrimination au milieu scolaire. On accompagne sur des problèmes de discrimination en milieu professionnel. On accompagne aussi des préparations coming out. On accueille des familles, on accueille des parents qui justement ont du mal à accepter le coming out de leurs enfants, et le fait de pouvoir échanger avec eux va les rassurer aussi. On accompagne dans le cadre médical aussi, puisqu'on est adhérent du REST, Réseau Santé Trans. On sensibilise aussi, on fait de la formation. La sensibilisation, on le fait par exemple par des ciné-débats. On le fait par de l'intervention en milieu scolaire. On le fait aussi en créant du lien entre associations. Puisque justement, comme je disais tout à l'heure, et je reviens sur le fait d'avoir échangé avec le président du mouvement associatif breton, qui justement recherche des associations pour faire des sensibilisations auprès de différentes assos sur la région Bretagne, par exemple. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est la transmission d'infos, c'est la sensibilisation. C'est important de sensibiliser pour faire changer la conscience collective sur les thématiques LGBTI. Il faut réussir à débunker tout l'imaginaire collectif qui date d'il y a très longtemps et qui a mis en place cette LGBTI-phobie depuis des années, et réussir à casser tous ces clichés. C'est très long et c'est très important, puisque c'est tous ces clichés qui ont été mis en place depuis des années et qui sont encore mis en place par, je ne dis pas l'extrême droite, mais les extrêmes droites, puisqu'il y en a plusieurs. Il faut casser ces clichés-là pour vraiment expliquer qu'est-ce que c'est que être LGBTI+. On n'est pas des monstres, on est humains. Et c'est important de le rappeler, c'est important d'expliquer. C'est comme une fake news. Une fake news, c'est 30 secondes pour la publier. C'est 3 ans minimum pour la débunker. Et là, on a 40, 50, 60 ans de fake news. Et il va nous falloir des années à réussir à débunker tout ça. Et c'est pour ça que c'est important de transmettre de l'info, de sensibiliser, d'échanger.
Quelle action a réalisé l'association Cuir Uni de Bretagne?
Ça a été par exemple la première marche des fiertés organisée sur Morlaix. Ça a été différents ciné-débats, que ce soit sur Morlaix, que ce soit sur Quimper. L'association a eu un petit peu moins d'action visible ces derniers temps, mais en non visible, il y a quand même tous les groupes de parole, il y a toutes les interventions, tous les ciné-débats, et on a en projet plusieurs événements, que ce soit dans le Nord Finistère ou dans le Sud Finistère. On a beaucoup de bénévoles très impliqués qui ont rejoint l'association depuis le début de l'année, et on va avoir beaucoup d'événements visibles à proposer. Je peux pas trop en parler pour l'instant parce que tout n'est pas encore acté à 100% et les dates ne sont pas encore fixées, mais on a beaucoup de projets pour le milieu, la fin d'année. On partagera sur les réseaux sociaux et on fera en sorte que ce soit le plus visible possible.
C'est quoi les projets de l'association dans le futur ?
Dans le futur, ce serait une marche des fiertés, possiblement une contre-pride. Ce serait une marche des fiertés hors mois des fiertés, hors saison des fiertés. On se pose aussi la question d'une pride rurale, par le biais d'une antenne que l'on veut créer en centre Finistère, puisque les prêts rurales aussi sont importantes. Il n'y a pas que les grandes villes où on trouve des personnes LGBTI+, ça faut le rappeler. Il y a aussi beaucoup de personnes LGBTI+, en milieu rural. Pour le rappeler, ce serait peut-être intéressant justement d'avoir une marche des fiertés en centre Finistère. Ça fait partie de nos projets. La marche des fiertés, c'est en rapport à ce qui s'est passé à Stonewall, aux émeutes de Stonewall au départ, qui était une révolte LGBTI face à de nombreuses discriminations. Ce jour a évolué en tant que Pride et aujourd'hui en tant que marche des fiertés. C'est la journée qui nous permet de revendiquer nos droits, de revendiquer l'origine de nos luttes pour nos droits. Les autres projets sont des ciné-débats, des drag shows, puisqu'on est en lien aussi avec différentes associations drag. Et justement, c'est intéressant de travailler avec elle parce que Elles ont une implication politique. Là, et elles ont un message par le côté artistique. Elles ont un message politique. Et c'est important de collaborer avec des associations de drag queen, de drag king, de club kid aussi, pour échanger et partager. C'est important de rappeler nos luttes, mais c'est important aussi de ramener un côté moins brut et plus accessible.
Julie, vous faites partie du groupe de travail sur la question LGBT de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce qu'avec ce groupe de travail, vous avez déjà parlé à un ministre ?
Alors, le groupe de travail LGBTI du Comité national de la LDH est assez intéressant puisque on travaille sur essentiellement sur le droit. On travaille aussi sur les faits d'actualité, mais on travaille essentiellement sur le droit. On essaie de décrypter, par exemple, des propositions de loi. On essaie de comprendre comment est-ce que les propositions de loi et comment les lois sont construites. On essaie d'apporter des solutions face à des problématiques rencontrées par les personnes LGBTI. Et le fait que l'on fasse partie du Comité national de la LDH est membre d'honneur de la CNCDH, du Conseil national consultatif des droits humains. Ce qui fait qu'on interagit avec l'État de façon, je dirais, quand même assez directe. Ce qui fait qu'interagir avec des élus, oui, ça on le fait régulièrement. Lors de la présentation de la proposition de loi sur l'interdiction des transitions des mineurs, on avait eu Chloé Carastro qui est co-responsable du GT LGBTI comme moi, qui avait interagi au Sénat. Donc oui, on interagit avec des élus régulièrement. J'interagis aussi régulièrement avec des députés et sénateurs sur la région Bretagne. Je parlais tout à l'heure de sensibilisation du grand public, mais il faut aussi qu'on sensibilise les personnes politiques. C'est important qu'ils prennent conscience des lois qui sont en place, des contraintes que mettent ces lois pour les faire évoluer.
Est-ce que vous êtes intervenu à l'étranger ?
Non, c'est pour l'instant je reste sur le secteur régional et national sur certains événements où je représente la LDH au niveau national, mais à l'étranger pour l'instant non.
Comment ça se passe pour la communauté LGBT+ ailleurs en Europe et dans le monde ?
C'est une excellente question quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé dernièrement en Angleterre, on voit qu'il y a un recul des droits qui s'accélère, qui s'intensifie. On se pose la question aujourd'hui, est-ce que ça arrive chez nous ? Quand on voit ce qui se passe, toute la désinformation qui passe par les extrêmes droites en France, on commence à avoir de plus en plus peur de ce qui pourrait arriver en France au niveau de nos droits. C'est compliqué. C'est compliqué parce que beaucoup de personnes concernées viennent nous voir et nous posent la question. Et oui, on a une crainte de voir nos droits reculer par rapport à tout ce qui se passe dans les autres pays qui nous entourent. Et surtout quand on voit ce qui s'est passé dernièrement en Angleterre. Oui, c'est à quelques kilomètres, donc ça fait peur par moment. En Angleterre, il y a une loi qui est passée, une loi quand même assez transphobe, qui fait qu'aujourd'hui en Angleterre, on reconnaît une femme ou un homme, on ne reconnaît même pas les personnes non binaires, ce qui est complètement un délire. Mais en France aussi, hélas. Mais en Angleterre, ils ne reconnaissent les personnes étant femmes ou hommes par leur assignation de genre à la naissance. Et c'est tout.
Comment ça se passe pour la communauté LGBTQI+ en France ?
Pour l'instant, l'évolution de nos droits je dirais qu'il y a une stagnation. Parce qu'il y a eu des propositions de loi qui sont plutôt transphobes. Alors, c'est des propositions de loi qui ont été adoptées. C'est la proposition qui est adoptée. C'est pas la loi en elle-même. C'est-à-dire qu'elle va être mise à l'étude. Là où on commence à se poser des questions, c'est par rapport à cette proposition, par exemple, ils font référence à beaucoup d'études qui sont faites aux États-Unis. Ils reprennent ce que l'extrême droite, enfin les extrêmes droites aux États-Unis utilisent comme étude. Je prends un exemple qui est tout simple. Les mastectomies aux États-Unis, cette chirurgie-là est pointée du doigt aux États-Unis pour les personnes transgenres, donc pour les hommes transgenres. Cette étude-là révèle en fait que 98% des personnes qui subissent cette opération, c'est des personnes cisgenres. C'est pas des personnes transgenres. Ce qui fait que ils ont une méconnaissance du sujet qui fait qu'ils prennent cette opération-là. Ils vont dire que cette opération-là, c'est les personnes transgenres qui la font, alors que 98% des personnes qui la font ne sont pas transgenres. Mais le chiffre est là. Et ils utilisent ça. Et pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Et la dernière proposition de loi qui était passée au Sénat, justement, j'ai voulu chercher au niveau des sources sur les études. Et beaucoup de liens ne sont plus actifs. C'est quand même étonnant. Et ça pointe aussi des études aux États-Unis, dont celle-là, où il n'y a aucune précision justement sur la proportion de personnes transgenres à faire réellement cette opération-là.
Quels sont les droits que vous revendiquez ?
Le droit à exprimer un genre, le droit à l'autodétermination, le droit à être en accord avec soi-même et à exprimer cet accord-là. Ça devrait être un droit universel. Tout le monde a le droit d'être en accord avec ce qui elle est et devrait avoir le droit de l'exprimer.
Merci Julie Tano d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne écoute et à bientôt sur Transistor.